Campagne, bonjour. Deuxième journée en Haute-Saône, département trop peu connu, et les carnets sont une bonne occasion pour améliorer la visibilité des initiatives et mettre en valeur des territoires comme celui-ci, dont une des missions est l'éducation à l'environnement. Depuis une quinzaine d'années, près de 30 000 enfants ont déjà participé à des sessions de formation et de sensibilisation à l'environnement. La Haute-Saône dispose pour cela d'un superbe outil avec l'espace nature et culture de Château Lambert, un bâtiment haute qualité environnementale inauguré en 2009 et qui est un lieu d'intervention. Interprétation des patrimoines naturels et culturels des Vosges saunoises, et il participe en même temps au développement touristique de cette partie très préservée du département. Entre soucis, la réduction des dépenses énergétiques, l'accroissement des énergies vertes, l'éco-construction, c'est dans cet esprit que s'est constitué en 2000 l'ADERA, qui désigna à sa naissance une association de développement des énergies renouvelables et alternatives. L'association a depuis agrandi son champ d'intervention, comme va l'expliquer Nicolas Moniaud. Et puis une mémoire industrielle qui refait surface à Saint-Loup sur Semouges, jadis capitale du meuble, avec la mise en valeur d'un siècle de savoir-faire. Hervé Leroy fera l'inventaire des milliers de pièces conservées dans l'ancienne fabrique.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Nicolas Moniaud, bonjour.
Bonjour.
Nicolas, vous êtes conseiller en maîtrise de l'énergie, directeur de l'association ADERA, née en 2000. Alors, c'est une association indépendante ou c'est les pouvoirs publics qui en ont décidé de la création ?
Non, c'est une association indépendante qui a été créée par des citoyens et qui est toujours gérée par des citoyens, donc avec un conseil d'administration avec 8 administrateurs et une centaine d'adhérents. Mmh. On est quand même largement soutenu et financé par l'ADEME, la région, les différents pays de Haute-Saône, avec qui on travaille, mais sans qu'ils aient de prise sur nos décisions.
Ouais. Avec vous, on va parler de beaucoup de choses, et entre autres d'un projet de centre pédagogique de l'ADERA, avec beaucoup d'objectifs. Donc il s'agit de limiter les dépenses énergétiques, faire face aux problématiques environnementales, financières, sociales, il y a toujours à l'énergie, les co-constructions, les énergies renouvelables, les transports, etc. Et vous signalez les atouts du monde rural face à ces enjeux. Ça, c'est une grande question. Quels sont les atouts du monde rural face à ces enjeux d'avenir ?
Bah, le principal atout en zone rurale, hein, surtout en Haute-Saône, on est un territoire assez diffus, assez étendu. On a généralement des grandes maisons. On a besoin de se déplacer pour accéder aux services, aux magasins, etc. Par contre, on est aussi des territoires où il y a beaucoup de forêts. Il est possible d'utiliser du bois énergie, notamment, ou du bois d'œuvre. On a de la place pour mettre des éoliennes, des panneaux solaires. On a des cours d'eau qui peuvent permettre d'installer de l'hydroélectricité. Donc ça, c'est des richesses qui sont encore mal mises en valeur, même si c'est quand même aujourd'hui bien pris en compte par notamment les collectivités locales. Mmh. C'est une richesse qui n'est pas assez exploitée. Ça peut être aussi sur la production de matériaux. Aujourd'hui, en Haute-Saône, on a de la production de chanvre qui peut être utilisée dans du bâtiment. On peut produire de la paille et d'autres matériaux qui peuvent servir à construire des bâtiments économes et écologiques.
Donc la solution d'avenir, Nicolas, via votre association qui est territorialement parlant très ancrée et attachée à votre espace, c'est de réunir les élus, les habitants et les entrepreneurs ?
Alors nous, notre action, elle est surtout à destination des habitants, notamment pour ce qui est de notre projet de centre pédagogique. Vraiment, le but, c'est de faire venir finalement des citoyens, quoi, et de leur donner des outils pour mettre des choses en place au quotidien, que ce soit des petits éco-gestes ou que ce soit dans le cadre de la rénovation de leur logement ou de trouver d'autres solutions de déplacement. Aujourd'hui, on fait aussi principalement du conseil aux particuliers sur la rénovation énergétique. Alors bien sûr, il faut travailler derrière avec les collectivités et les entreprises pour que tout ça fonctionne mieux. Mais notre cible aujourd'hui, c'est plutôt le particulier, le citoyen, qui par ailleurs peut être un professionnel du bâtiment.
Alors, pour les familles en situation de précarité, quelle réponse vous pouvez apporter ?
Il y a plusieurs niveaux de réponse. Hein. Aujourd'hui, nous, on travaille surtout en amont des projets, notamment quand il y a la possibilité de faire des travaux de rénovation énergétique, où là, on va plutôt être en premier conseil pour essayer de définir avec les particuliers, qu'ils soient en précarité ou pas d'ailleurs, de définir les travaux les plus pertinents chez eux, d'arriver à chiffrer, même au premier rendez-vous, au premier contact, d'arriver à chiffrer combien pourrait coûter ces travaux. et surtout comment on finance ces travaux, que ça soit à l'aide de subventions qui sont assez nombreuses, mais qui voilà, c'est un peu difficile de s'y retrouver, mais surtout que ça soit en termes de financement au départ, puisque le problème des subventions, c'est que ça vient après les travaux généralement. Et le plus dur, bah, c'est de trouver l'argent au départ pour amorcer la pompe.
Oui, effectivement, ça revient souvent un contre-temps par rapport à ces situations de familles précaires. Il y a une autre actualité en ce moment, indépendamment du projet de centre pédagogique en milieu rural, donc qui devrait se construire l'année prochaine. C'est le défi des familles à énergie positive. Ça existe dans de nombreux territoires en France. Mais alors, chez vous, en quelques années, vous avez doublé le nombre de familles inscrites.
Oui, alors c'est la cinquième année en Haute-Saône que le défi donc qui est national est dupliqué en Haute-Saône. C'est vrai que aujourd'hui on s'aperçoit, et avec l'expérience qu'on a avec le défi, qu'on arrive avec des petits gestes et du petit matériel, donc c'est des ampoules, c'est des coupe-veilles, c'est des mousseurs à économie d'eau, on arrive en moyenne à faire 200 euros d'économie par an, et sans faire de gros investissements. Donc on voit que c'est complémentaire avec des travaux, ou quand on ne peut pas faire de travaux, c'est quelque chose qui permet de faire des économies qui sont pérennes. Et effectivement, depuis 5 ans, on est parti de 70-80 participants. À ce jour, on est 160 pour cette année. Ouais. Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à la fin de l'année.
En fait. Ouais. Et donc, pour le centre pédagogique, vous avez déjà pressenti un lieu ?
Oui, alors le lieu de départ, hein, c'était notre siège social actuel, hein, à Gourvan, un petit village de 200 habitants à l'ouest de la Haute-Saône. Et là, on est en train d'étudier un autre lieu qui est à 4 km dans un village qui fait au moins 500 habitants. Et ça serait dans une ancienne école. Ouais. On sera en plus à côté de la nouvelle école, on sera à côté de la mairie. Donc on va essayer de faire le lien entre tout ça.
Ouais. Le village de Combeau-Fontaine, plus c'est précisément. Ça. Le site de la DERA, c'est adera-asso.fr, adera70 pour la page Facebook. Merci Nicolas Monio.
De rien, merci à vous.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Un mot sur le pôle d'excellence rurale, pardon. Ensemble pour développer les pratiques culturelles en milieu rural, et en particulier l'illustration est à Seyssur-Saône, 1500 habitants, lieu d'implantation de l'écosystème, nouvel élu des scènes numériques actuelles, 350 places pour la salle de spectacle, des loges, une cuisine pour les artistes, un espace d'hébergement en cas de résidence, et puis une friche qui s'étend avec, en prolongement, une société d'insertion, une entreprise d'insertion, Résurgence. Vous allez trouver les liens des deux lieux à nos pages d'émission, à noter à Écosystème, à Seyssur-Saône, le 13 décembre, un concert jazz avec l'excellente percussionniste Anne Passeo, Hervé Leroy. Bonjour.
Bonjour.
Hervé, vous êtes président de l'association ACCM, qu'il faut traduire par les allées du Conservatoire de la Cité du Meuble à Saint-Loup, sur Semouse. Histoire extraordinaire, parce que cette localité de Haute-Saône a été pendant très longtemps une capitale, la capitale du meuble en France.
Oui, effectivement, Saint-Loup avait la réputation d'être la capitale du meuble. Et c'est une histoire qui remonte vers les années 1860, avec la première création de l'entreprise Lebrun, en 1859, qui était reprise en 1903 entre l'entreprise Lebrun et Bardoz-Lefranc, qui ont créé les Unes Réunies, et qui, les Unes Réunies, ont perduré jusqu'à 2011, où malheureusement, elle a fermé ses portes.
Ouais. Alors, il reste encore l'usine Parizeau. En 1982, le groupe Parizeau employait encore 2000 salariés, ce qui a fait la réputation de Saint-Loup à l'étranger.
Oui, ben, Parizeau était un groupe qui existe encore, heureusement d'ailleurs. Aujourd'hui, on a encore 650 personnes sur le site de Saint-Loup qui travaillent pour l'entreprise Parizeau.
Ouais. Il y a eu des commandes historiques dans les usines réunies, par exemple les pupitres du Palais Bourbon.
Oui, nous sommes en train de rechercher effectivement, suite à la création de l'association depuis l'année dernière, les usines réunies Lebrun ont fourni l'Élysée, en 1932, il y a une grosse commande pour l'Élysée, pour la salle des fêtes de l'Élysée. Oui. 120 chaises, 36 fauteuils et 12 canapés qui ont été garnis en tapisserie d'Aubusson.
Et le paquebot Normandie aussi.
Alors pour l'instant, pour le Normandie, on est en train de rechercher. Heureusement, Lebrun, Henri Guy et la famille Pierre ont conservé toutes les archives, on doit les remercier, parce qu'aujourd'hui, on peut refaire, grâce aux calibres, grâce aux plans, grâce aux factures qui ont été déposées aux archives départementales, on retrouve des textes, et notamment le journal officiel qui nous a appris qu'on avait, sur Saint-Loup, avait fourni l'Élysée, la salle des commissions aussi au Palais Bourbon, et aussi les sièges qui sont partis à la mairie de Paris.
Ouais. Alors, en 2011, donc, les usines réunies ferment leurs portes. En 2012, la commune rachète le site et fait donc la découverte de ce patrimoine dans les combles, à savoir des milliers de pièces.
Oui, alors la municipalité rachète une partie. L'autre partie a été rachetée par un entrepreneur, Texo, qui lui veut continuer un peu la fabrique de meubles. Et nous avons redécouvert un stock très très important de sièges qui étaient pendus à la charpente dans les greniers. On a aujourd'hui environ 3000 pièces qui sont en stock. Mais pour ce qui nous concerne, nous, patrimoine historique, on a entre 1500 et 1800 pièces uniques. Le but principal de l'association, c'est d'archiver le plus rapidement possible ce stock que nous voudrions classer. Et aujourd'hui, grâce aux quelques bénévoles qu'il y a, nous sommes à 800 pièces qui ont été lavées, traitées et photographiées. Mmh. Et il nous reste certains stocks à finir pour pouvoir classer toutes ces pièces uniques. Il y a certains sièges qui sont vraiment de la dentelle, qui sont un travail formidable, et c'est pour ça qu'on veut absolument sauvegarder ce patrimoine et savoir-faire de la commune de Saint-Loup.
Bien sûr. Et le conservatoire de la Cité du Meuble, plus tard, sera ouvert au public, j'imagine.
Le souhait, effectivement, il est d'ouvrir le conservatoire. Donc, conservatoire, ça veut bien dire, c'est qu'on va montrer tout ce qui s'est fait sur Saint-Loup. Donc, ça commence par le siège, et ensuite, naturellement, ça s'est transformé avec le meuble. Et aujourd'hui, on récupère des buffets, des chambres à coucher qui sont sortis des ateliers de Saint-Loup. On recommence à remonter l'histoire du meuble à Saint-Loup qui a alimenté la France et l'étranger à son savoir-faire.
Voilà. Alors, si vous voulez donner un coup de main à l'association, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des pièces à rapporter, il n'y a aucun problème. On a même récupéré la caravane du cirque Grus de 1952, 15 mètres de long, qui avait été aménagée par les ateliers d'art de l'entreprise Parisot. C'est un véritable petit bijou. Et l'adresse internet pour entrer en correspondance, c'est allezduconservatoire@gmail.com à Saint-Loup-sur-Semouse. Merci Hervé Leroy.
Merci, au revoir.
Au revoir. La Haute-Saône, toujours, Villars-Seixelles pour le jeu des 1 000 euros. Nicolas Stoufflet.